Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité, c'est Marie-Josée Morneau.
Je m'appelle Marie-Josée Morneau. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
La discussion entre Marie-Josée Morneau et Joëlle Boulay s'étale exceptionnellement sur deux épisodes de Jason Éducation. Vous trouverez la première partie lors de l'épisode précédent et voici maintenant la deuxième partie.
Alors, comme tu as mentionné, les enseignants sont très occupés. Et ça peut évidemment comme se faire comprendre comme quelque chose qui est juste additionnel, qu'on ajoute sur notre assiette déjà très comblée. Alors, comment est-ce que tu l'intégrerais de manière, ou est-ce que c'est pas juste une autre chose?
Oui. Alors, j'ai des idées de pratico-pratique, si on veut. Alors, par exemple, si j'ai déjà ma liste de vocabulaire que j'ai inclus, par exemple, peut-être que j'ai un mur de mots. En passant, il ne faut pas oublier de mettre les déterminants devant les noms communs parce que surtout les élèves en immersion, là, ils ont besoin d'apprendre ça avec le nom commun. Ça va vraiment les aider au niveau du genre grammatical. Alors, je pourrais, par exemple, prendre 5 minutes au début de ma classe pour, disons qu'on est en train d'apprendre à propos des fractions. Et puis là, toi, tu as le dos tourné au mur de mots, puis moi, je fais face au mur de mots. Choisis un mot du mur de mots et là, je dois te le décrire dans mes propres mots. Et là, tu dois deviner qu'est-ce que c'est. OK? Alors, si, par exemple, j'entends un élève qui dit « c'est le terme qui indique en combien de parties équivalentes l'unité a été divisée », bien là, je suis là « oh mon Dieu, cet élève-là a une excellente compréhension de ce que c'est les fractions. Il est capable d'utiliser la terminologie pour s'exprimer. Bingo! » Mais peut-être que là, je continue à circuler, puis j'en entends un autre qui dit c'est le nombre at the bottom de la fraction. OK? Bien là, ça me dit que cet élève-là, il va falloir que je travaille la compréhension au niveau du concept de la fraction. Et puis, peut-être qu'un dénominateur, il sait que c'est en dessous de la fraction, c'est dans le nombre en bas, mais il ne comprend pas vraiment c'est quoi le rôle du dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, bien entendu, je vois que j'entends un mot en anglais. Alors, cet élève-là, clairement, manque de vocabulaire. Alors, il va falloir travailler ça, soit juste avec cet élève-là en particulier, ou bien que c'est un élément langagier qu'il faut que je travaille avec la plupart des élèves. Vraiment, c'est une petite activité comme ça va me donner beaucoup plus d'informations sur mes élèves que d'avoir fait une feuille de travail. Puis, c'est vraiment vite fait. Puis, je pourrais encore utiliser mon mur de mots. Et puis, cette fois-ci, je vais dire aux élèves, OK, vous allez vous placer en diade ou en petit groupe. Et là, vous devez faire une phrase avec le plus de mots possible. Sur le mur de mots.
Défi.
Alors oui, là, c'est un défi. Puis là, ça force les élèves à faire des liens entre les différents termes, les différents contextes, etc. Puis là, on peut ensuite partager ça en classe. Et puis, les élèves, s'ils sont compétitifs, des fois, on peut même leur attribuer des points quand ils deviennent plus confortables, etc. Alors, c'est important de voir quand est-ce que les élèves vont avoir des opportunités de réinvestir le vocabulaire. Il y a aussi, il faut aussi quand je planifie que je décide quand est-ce que mes élèves vont parler dans la salle de classe. Alors, je sais que je veux réduire mon temps de parole, que je veux laisser parler, mais quand est-ce qu'ils vont faire ça exactement? Alors, je peux, par exemple, comme j'ai dit, on peut poser des questions en grand groupe, mais je peux aussi m'assurer que je demande aux élèves de discuter entre eux. Et ça peut être au début de la classe pour activer leurs connaissances antérieures. Mais au lieu de juste poser une question à la classe, c'est bien de leur donner le temps de penser. Mais si j'ajoute un « pense, parle, partage », par exemple, ou ce que là, au lieu que quelqu'un me réponde, qu'il réponde à l'enseignant devant la classe, prends une minute, tourne vers ton partenaire et puis là, discute. Explique ton raisonnement à ton partenaire. Alors là, de cette façon-là, tout le monde a parlé dans la classe. Et c'est ça qu'on veut. On veut trouver des façons ce que tout le monde doit parler dans la salle de classe. Puis finalement, on a parlé de l'intégration des matières, mais ça peut nous sauver du temps. Mais il y a aussi la partie où ce que l'enseignement devrait être enseigné en spirale. Puis ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on introduit des concepts aux élèves, mais on les ramène et puis on continue de les ramener, puis on va de plus en plus en profondeur avec ces concepts-là. Et là, ça donne la chance vraiment aux élèves de revoir le vocabulaire, de continuer de communiquer puis de faire des liens entre tous les différents concepts qu'ils apprennent au fur et à mesure. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à enseigner les mathématiques par domaine. Alors là, j'attends qu'ils comprennent, qu'ils ont maîtrisé la multiplication avant de faire la division. Puis là, j'ai continué de faire le sens du nombre. Puis on est rendu au mois de novembre, au mois de décembre. On est encore dans le sens du nombre. Puis là, on est rendu au printemps. Puis là, bon, il me reste rien qu'une couple de semaines pour faire géométrie vite fait. Puis là, une couple de semaines pour faire statistiques et probabilités. Ou bien, oh, j'ai pas le temps. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Un an plus tard que je n'ai pas parlé de géométrie, bien là, les élèves, ils ne se souviennent plus, là. OK? C'est quoi un segment de droite? C'est quoi une ligne parallèle? Ils ont oublié du vocabulaire qu'ils ont appris en première année. Alors là, c'est difficile de bâtir sur ce qu'ils ont appris parce que je n'ai pas enseigné en spirale. Alors, ça aussi, ça peut être une autre façon de vraiment là, promouvoir, d'intégrer l'oral, d'intégrer la littératie à travers tout au long de l'année dans la classe de mathématiques.
Oui, et tu soulèves un bon point aussi que les maths sont tous les jours, là. C'est pas juste, OK, aujourd'hui c'est sens du nombre, mais demain vous n'allez pas travailler le sens du nombre parce que c'est juste aujourd'hui. Mais on fait des maths tous les jours et juste comme n'importe quel autre sujet, c'est la vie n'est pas divisée en matière ou en domaine comme ça l'est dans nos programmes d'études. Alors, ça n'a vraiment pas du sens de l'enseigner de cette manière.
Exactement, exactement. Puis on sait que pour les programmes d'art langagier, par exemple, on voit tous les concepts à la fois ou les compétences. Alors, on essaie, dans le temps que possible, de ne pas juste cibler, on ne va pas juste faire de la production orale. Alors, on veut faire de la littératie équilibrée. Alors, même chose, numératie équilibrée.
Oui, on le fait en français, mais on le fait pas du tout en maths.
Exactement.
Wow!
Oui.
Ça semble évident maintenant que tu l'as dit, mais non, je ne fais pas ça, je n'enseigne pas en spirale, mais je vais essayer parce que je comprends vraiment que ça a du sens. Puis juste pour la révision, mais aussi juste comme tu as dit, de faire des liens dans les domaines différents aussi. Et parce que juste parce que tu fais la géométrie ne veut pas dire que tu ne fais pas la multiplication en même temps.
Exactement.
Tu sais?
Exactement. Vraiment, on devrait faire le sens du nombre à travers les autres domaines.
Oui. Oui.
Mm. Ouais.
T'as tout compris. Il y a beaucoup d'idées. Puis j'ai compris, mais est-ce que ça va... C'est comme ça, c'est la bonne théorie, mais en pratique, c'est tout à fait différent. Alors, t'as mentionné, j'ai beaucoup aimé que comme les élèves ont un partenaire, puis tu leur donnes peut-être comme une phrase trouée, par exemple, puis ils doivent, tu sais, comme remplir la phrase, puis c'est comme ça que tu pourrais les échafauder un petit peu. Est-ce que tu as d'autres stratégies pour les faire parler davantage en classe de maths?
Oui, bien, les questions ouvertes, hein, la manière qu'on pose les questions, si je pose des questions fermées, bien entendu, je ne vais pas avoir beaucoup de production, d'interaction orale. Alors, si je peux utiliser un exemple, par exemple, disons que je projette une image d'un rectangle au tableau, puis là, je donne les dimensions aux élèves. Puis là, je demande, bien, c'est quoi le périmètre? Bien là, j'ai juste une réponse, il n'y a pas grand-chose à discuter. Par contre, si je dis aux élèves, OK, les amis, là, La réponse est 120 cm. Quel est le polygone? Quelles sont ses dimensions? Alors là, je ne vais pas avoir deux réponses pareilles. Okay? Puis là, les élèves, c'est une bonne opportunité pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Ils font de la résolution de problèmes. Ils vont faire différents dessins, peut-être qu'ils vont utiliser différents matériaux concrets, etc. Et là, c'est toute ma période de mathématiques, ça. Puis c'est une excellente leçon. J'ai pas eu besoin de faire de photocopies. J'ai pas eu besoin de passer des heures dans Pinterest pour voir qu'est-ce que je pourrais trouver par rapport au périmètre. Alors, lorsque les élèves, c'est certain qu'il va falloir que je leur enseigne un peu de façon explicite c'est quoi le périmètre, bien entendu, et etc. Mais ça devrait pas être quelque chose que je m'éternise pendant très longtemps. Parce que ensuite, lorsque les élèves vont partager avec d'autres groupes ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont construit comme polygone, bien moi, quand j'entends qu'est-ce que ton équipe a fait, ça va me donner plein d'idées que je n'avais pas pensées. Alors, peut-être que moi, j'avais fait un triangle équilatéral et puis là, j'ai fait les trois côtés, alors trois fois le nombre de côtés, puis là, ça me fait 120 cm. Et peut-être que quelqu'un d'autre a fait un rectangle, etc. Alors, si je demande aux élèves d'expliquer leur raisonnement, de montrer leurs calculs, etc., puis de travailler en collaboration, ben ils vont s'entraider. Parce que les élèves aussi ne devraient pas juste avoir besoin de moi pour avoir une réponse ou pour avoir de la rétroaction, mais ils peuvent aussi s'entraider. OK? On est facilitateur d'apprentissage, alors on peut certainement avoir recours à la collaboration puis aux autres élèves dans la classe. Puis, c'est intéressant que tu as mentionné les phrases trouées parce que c'est justement une autre des stratégies que j'allais partager.
Je l'avais écrit quand tu mentionnais quelque chose tantôt. Oh, les phrases trouées!
Oui! Alors, une autre façon de structurer les conversations, c'est un truc, c'est justement de donner des phrases modèles ou des phrases trouées. Surtout pour les élèves qui, des fois, sont un peu plus gênés. Alors, ça leur donne une idée de comment commencer la conversation. Ou ça peut être aussi pour des élèves dont les compétences langagières sont peut-être limitées. Alors là, si j'ai un modèle, ça va m'aider à communiquer dans la classe de mathématiques en français. Par exemple, un centre d'apprentissage que j'avais créé, c'était pour des élèves de première, deuxième année. Et puis là, je leur avais fait un apron. Et puis là, la structure de phrase est sur le napperon ou ce qu'ils font leur pâte à modeler, là, qui manipule ça. Alors, ça dit « J'ai construit ce solide avec ». Puis là, il y a un espace libre. Et là, ils peuvent piger des cartes avec des exemples d'objets de la vie courante. Alors, disons que j'ai pigé un champignon. Alors là, et puis là, sur mon mur de mots, alors là, j'ai des images avec, parce que quand ils sont tout petits, il faut bien entendu avoir les images. Alors là, j'ai un cylindre, j'ai une demi-sphère. Alors là, j'ai répété cette phrase-là plusieurs fois. Et là, l'enfant peut dire, avec son champignon de pâte à modeler, « J'ai construit ce solide avec une demi-sphère et un cylindre. » Alors là, l'élève, en première année, a fait une phrase complète en mathématiques. Alors, je travaille la littératie et les mathématiques en même temps. Et puis, bien entendu, cet élève-là se sent super content, qu'il est capable de partager ça en français. Puis, bien entendu, c'est le fun. On fait de la pâte à modeler. Et vraiment, cette tâche-là est très significative pour l'élève. Puis, il a manipulé, il est capable de différencier les différents solides, etc. Alors, vraiment, une classe de mathématiques, ça fait du bruit. Si je peux vous partager ça, c'est que ça fait du bruit. Puis on espère que ce bruit-là est en français.
Oui, absolument.
Je ne sais pas si tu veux d'autres... exactement. Je ne sais pas si tu veux d'autres stratégies. J'en ai plein d'autres.
Je dirais jamais non à des stratégies concrètes.
OK. Alors, la prochaine stratégie que je vais vous partager rapidement, c'est les déclencheurs de conversation. Alors, Si vous allez sur le site, ça s'appelle Number Talk Images, puis c'est en anglais, mais le site est bilingue, en fait. C'est juste le titre qui est en anglais. Puis là, vous allez y trouver plein de photos de la vie courante. Et le but de ces photos-là, vraiment, c'est de susciter des jasettes mathématiques. Alors, tu vas voir une photo avec des blocs Lego, des plateaux de biscuits, des rangées d'oignons dans un jardin, etc. Puis là, vraiment, on peut aider les élèves à visualiser, c'est un des processus mathématiques, on peut les aider à voir les mathématiques dans la vie courante. Et puis là, c'est une belle opportunité pour les faire parler. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu t'observes? Qu'est-ce que tu te demandes? Parce que les élèves peuvent aussi poser des questions. Et c'est un exercice que je pourrais faire dans ma classe de mathématiques, mais je pourrais bien entendu le faire dans ma classe de français aussi pour leur apprendre à comment formuler des questions, par exemple. Une autre activité, les activités ludiques, bien entendu. Alors, on aime ça s'amuser en mathématiques. Qui n'aime pas s'amuser? Alors, il y a plein d'activités que j'ai créées qui ont été vraiment inspirées des jeux de société. Alors, par exemple, headbands. Alors, je peux avoir des bandeaux ou bien mettre juste du ruban collant en arrière de des cartes de mots. Et puis là, ensemble, on a des mots par rapport aux statistiques et probabilités. Puis là, encore là, ça force les élèves à expliquer leur compréhension par rapport à ces concepts-là. Je peux jouer à « Qui suis-je? » avec les nombres, par exemple. Alors, je pourrais mettre à l'écran ou bien un peu comme « Pige dans le lac », là, plein de nombres. Puis là, quelqu'un choisit un nombre et puis là, moi, je dois poser des questions. On essaie de poser des questions pour deviner c'est quoi. Et là, je vais devoir utiliser le vocabulaire de dizaines, d'unités. Est-ce que c'est un nombre pair? Est-ce que c'est un nombre impair? Etc. Alors, et puis là, je peux utiliser, je peux avoir une liste de questions pour les élèves. Je pourrais faire une liste de questions avec eux, comme remue-ménage. Puis ensuite, ils pourraient se fier à ces questions-là s'ils en ont besoin, si on veut. Une autre activité semblable où ce que les élèves utilisaient l'application de Math Learning Center, c'est les blocs mosaïques. Et puis là, les élèves peuvent créer une régularité. Puis là, moi, je la crée sur ma tablette ou à l'ordi. Je pourrais aussi le faire avec du matériel concret. Puis là, je cache ce que j'ai fait. Puis là, ensuite, je dois te décrire ma régularité. Et là, toi, tu dois la reproduire. Alors là, je pourrais, par exemple, avoir un modèle de texte pour les élèves. Alors, premièrement, prends un petit triangle bleu. Ensuite, prends un carré rouge. Tourne-le 90 degrés dans le sens de l'horloge. Alors, tu vois, ou dans le sens horaire, je devrais dire. Alors, tu vois que ça force encore là les élèves à utiliser la terminologie. Puis, ils vont parler des attributs, ils vont parler des régularités croissantes, décroissantes, répétitives. Alors, encore là, je travaille les concepts mathématiques à l'oral et en collaboration entre élèves. Puis finalement, tu vois, j'en ai plein d'idées là, mais finalement, oui, les élèves peuvent faire des présentations orales en mathématiques. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement là, le concours d'art oratoire, mais ça peut être des présentations plus spontanées. Alors, on donne des rôles à chaque élève dans un petit groupe et à tour de rôle, ils prennent leur tour pour partager leur raisonnement, etc. Ça pourrait être, par exemple, un montre et raconte mathématique que les élèves apportent de la maison puis doivent nous montrer qu'est-ce qu'ils voient de mathématiques là-dedans. Je me souviens quand j'enseignais au secondaire en mathématiques, en 9e année, dans ce temps-là, on enseignait la trigonométrie. Puis au lieu de donner du temps aux élèves pour étudier en classe ou bien de leur faire faire un petit cahier de révision, je leur avais demandé de faire une présentation devant la classe pour résumer ce qu'ils avaient appris à propos de la trigonométrie. Et puis, c'était vraiment épatant de voir. Il y en a qui ont amené leur guitare, qui ont chanté. Il y en a qui ont dansé avec des explications. Il y avait plein de différentes façons. Il y en a que c'était plus formel, que c'était plus genre PowerPoint ou quoi que ce soit. Mais les présentations étaient variées. Les présentations étaient différenciées parce que les élèves avaient le choix de présenter comme ils voulaient. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans une stratégie comme ça, c'est qu'on promeut la participation active. Et puis, si on regarde la pyramide d'apprentissage, on sait que si moi, je plantais là devant la classe puis les élèves écoutent, ils vont retenir 10 % de ce que je leur enseigne. Alors que si les élèves enseignent à quelqu'un d'autre des concepts, ils vont retenir jusqu'à 90 % de la matière. Wow. Alors, de là, oui, l'importance de pas s'arrêter juste aux discussions, parce que les discussions, c'est super, c'est un taux de rétention de 50 %, mais vraiment, si les élèves sont capables d'enseigner à leur père les concepts, là, c'est vraiment une stratégie gagnante.
Oui.
Oui.
Oui. Alors, tu as parlé de la différenciation.
Oui.
Il me semble que tu as d'autres idées là-dessus.
Tu me connais trop bien.
Oui. Alors, comme les travaux, les évaluations.
Oui. Alors, bien, j'ai parlé tantôt un peu des questions ouvertes. Et puis, en passant, je devrais mentionner que Marianne Small, il y en a plusieurs qui la connaissent, elle a publié de nombreuses ressources en mathématiques.
Des œuvres d'art.
Oui, absolument. Alors, il y a aussi les tâches parallèles qu'elle suggère de faire, où ce que, en fait, compte, on a la même situation, problème pour toute la classe, mais peut-être qu'on va changer, par exemple, les nombres dans le problème pour travailler à différents niveaux. Alors, ça fonctionne très bien avec des classes multi-âges, mais aussi, même dans une classe avec juste un niveau, on sait tous qu'il y a des élèves à différents, il y a un grand écart entre les niveaux. Alors, ça fonctionne très bien.
Est-ce que les élèves finissent avec la même réponse à la fin avec des problèmes parallèles?
Non, pas nécessairement, mais on pourrait l'arranger comme ça, par exemple. Oui. Absolument. Puis quand je parlais de questions ouvertes, une autre stratégie que je pourrais partager, vraiment, c'est la page blanche. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que je connais plusieurs enseignants qui vont faire le nombre du jour. Et puis, typiquement, on a une belle feuille avec toutes des cases. Et puis, à chaque jour, on remplit les cases, le nombre qui vient avant, le nombre qui vient après. On fait un petit dessin, etc. Alors, ça, c'est pas, comme tu le sais, de différencier la tâche. Mais si à la place, je demande aux élèves, OK, on a le même nombre, on a le nombre 12 aujourd'hui, puis là, représentez-moi le nombre 12 de plus de façon possible. Alors là, oui, c'est certain que je vais en avoir que peut-être qu'ils vont juste mettre 10 plus 2, puis ils vont dessiner 12 bonbons, puis c'est à peu près tout. Puis là, on leur dit, OK, trouve d'autres affaires. Puis là, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée.
C'est comme si tu as enseigné.
Oui!
À de vrais élèves.
Une couple de fois. Mais je vais avoir quelqu'un d'autre qui va avoir des représentations beaucoup plus poussées. Alors, quelqu'un qui, par exemple, on peut représenter 12 avec des fractions, avec des nombres décimaux. Je peux dire que la racine carrée de 144 est 12. Alors, tu vois que je pourrais demander cette question-là à quelqu'un en première année et au niveau universitaire, vraiment. Moi, plutôt, on pourrait avoir une petite compétition là, de voir qu'est-ce qu'on a comme réponse. Et ce qui est plaisant là-dedans aussi, c'est qu'encore là, il n'y a pas juste une réponse. Et là, après que moi, j'ai réfléchi par rapport à ces représentations-là, bien, encore là, va te promener. Va parler à quelqu'un d'autre. Partage une représentation que tu as faite. Alors, prends un, donne-moi un, là, qui appelle. Alors là, comme ça, si moi, j'ai pas pensé à ça, la racine carrée, ou bien, peut-être je comprends pas ça, je vais pas aller dans ce sens-là nécessairement, mais ça me permet de voir encore là ce que les autres ont fait, puis ça peut m'inspirer, si on veut. Puis, en groupe classe, quand je reviens, bien là, on pourrait demander aux élèves de partager des stratégies, des représentations qu'ils ont faites. Puis là, ensemble, on pourrait se faire une liste. Alors, si le lendemain, petit Joe, là, qui avait juste mis des bonbons puis 10 plus 2, il n'a plus d'idée, bien là, il peut regarder, « Ah, je pourrais faire une soustraction. Je pourrais dessiner une ligne numérique ou une droite numérique, je devrais dire. » Alors là, tu vois qu'on pousse, on n'arrête pas à ce qu'ils nous donnent, mais on pousse le raisonnement, on pousse l'apprentissage vers un niveau plus élevé.
Oui, absolument.
Oui. Tu veux-tu une autre
Je ne dirais
façon?
Jamais non.
Oui, alors une autre idée que je pourrais partager, c'est par exemple, quand j'étudie les diagrammes. Alors, par exemple, j'ai un diagramme à bande. Alors, typiquement, on a un diagramme à bande et puis là, on peut voir, par exemple, je vais demander aux élèves, OK, combien d'élèves dans la classe de Mme Morneau ont des chats à la maison? Puis là, on va regarder la réponse sur le diagramme à bande. Alors, une autre façon de procéder, d'ouvrir la question encore là, comme Marianne Small le suggère, c'est de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas avoir de titre sur le diagramme. Et là, les élèves doivent arriver avec une certaine interprétation. Puis là, je vais voir... non seulement s'ils peuvent lire le diagramme à bande, mais aussi s'ils ont un sens du nombre. Parce que si je vois dans l'axe des Y qu'il y a 500 dans une des colonnes, puis là, je parle du nombre de chats dans la classe, bien, ça veut dire que cet élève-là n'a pas vraiment une bonne compréhension du sens du nombre, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas qu'on va avoir 500 chats dans la classe, OK? Alors, ça me donne beaucoup d'informations. Puis, oui, alors, je pourrais continuer toute la soirée, là, mais vraiment, ce sont certains exemples là, qu'on pourrait utiliser pour différencier dans la salle de classe. Puis vraiment, des activités qui ne prennent pas vraiment trop de temps à préparer.
Oui.
Puis c'est ça qui est beau avec ça.
Oui, c'est ça. J'aime juste comme la réponse est douce.
Exactement.
C'est quoi la question?
Oui.
Comme ça peut être aussi simple que ça, qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui.
Quelle était tes stratégies gagnantes pour évaluer de manière différenciée?
Oui, alors, bien, quand j'enseignais le cours d'évaluation à l'Université de Saint-Boniface, je comparais toujours l'évaluation au cours de natation. OK? Alors, quand je vais au cours de natation avec mes enfants, bien, l'instructeur ne va pas juste « OK, voici les amis, comment est-ce qu'on nage? OK, vite, plongez dans l'eau profonde et puis là, on va vous tester par rapport à ça. » Des fois, c'est ça qu'on fait en enseignement, OK? On monte au tableau, OK, voici comment résoudre une équation en algèbre. Puis là, OK, faites des feuilles d'exercice, puis ça compte. OK? Alors, l'évaluation, il faut se rappeler de ce que l'on a étudié à l'université. Puis l'évaluation, c'est vraiment l'évaluation formative puis formatrice qui compte. Donc vraiment, il faut de la pratique, de la pratique, de la pratique. Comme dans la piscine, on veut se pratiquer, puis donner de la rétroaction. Alors, comme instructeur, je vais sauter dans la piscine, je vais te tenir le bras, je vais te montrer différentes techniques, je vais te faire réfléchir par rapport à ce que tu fais pas, pour que tu puisses t'améliorer. C'est la même chose qu'on veut faire dans la salle de classe de mathématiques. Et puis, toutes les activités, les idées de stratégie que j'ai partagées, bien ça, ce sont des excellentes opportunités pour circuler dans la classe, pour avoir une liste de vérification. On pense des fois qu'il faut avoir un test. Mais on n'a pas besoin d'avoir un test. On n'a même pas besoin d'avoir un papier, des fois. Des fois, c'est nécessaire. Peut-être si j'ai un pré-cal, là, pré-calculus, là, en 12e année, ben c'est un peu plus difficile d'être créatif. Mais, les élèves sont en train d'apprendre à faire des multiplications, puis l'élève représente la multiplication avec des blocs de base 10 sur son bureau. puis est capable de me l'expliquer, etc. Je peux prendre une photo, mettre ça dans son portfolio, bingo. OK, alors j'ai pas besoin. Quand j'ai commencé à enseigner, je corrigeais tous les soirs parce que les élèves faisaient rien que des feuilles d'exercice, OK? Alors, il y a d'autres moyens d'évaluer. Il faut être créatif, puis il faut se demander, est-ce que ma clé de correction correspond vraiment à ce que je veux évaluer au niveau des habiletés, des compétences que je vise en mathématiques? Et si la réponse est non, puis probablement que ça l'est, bien, il faut que je trouve d'autres outils d'évaluation, comme par exemple une grille d'évaluation, peut-être un continuum où se situe l'élève. Alors, ce sont toutes différentes façons d'évaluer les élèves. Puis, l'évaluation, parfois, pourrait être plus plaisante pour les élèves et pas nécessairement quelque chose d'officiel, tu sais, que les élèves deviennent un petit peu stressés, là, parce que c'est le temps du test aujourd'hui. Puis, bien, peut-être qu'il fallait que j'apprenne par cœur, OK? Alors, on veut, il y a de la place pour ça, mais ça ne devrait pas être la majorité de l'évaluation, comme tu le sais.
Oui, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai des jeux de maths pour presque chaque concept. Alors, pour évaluer les élèves, comme pendant qu'on pratique, j'écoute les élèves qui jouent, pendant qu'ils jouent, et il faut comme expliquer son raisonnement. Pour les multiplications, par exemple, comment est-ce que tu es rendu à ta réponse? Et là, pour les évaluer, c'est ça que je fais. Je fais exactement la même chose que je faisais pendant la pratique. Je circule, j'écoute leur raisonnement, comment ils se sont rendus. Puis si c'est juste mémorisé, je les force à s'expliquer. Parce oui. que, tu sais, ou comme, si je ne comprenais pas que 5 fois 5 était 25, comment est-ce que tu me l'expliquerais? Puis je trouve que là, les élèves, c'est vraiment, ça n'a rien à changer pour eux autres. Ce n'est pas tout d'un coup une feuille de papier avec des questions et c'est volume zéro et personne ne parle, puis on sait parler pupitre. C'est comme bien, c'est exactement comme ça qu'on avait pratiqué.
Exactement. Si tu sais déjà que l'élève peut le faire, est capable d'expliquer son raisonnement, alors pourquoi passer à la prochaine étape et là de rendre ça très formel et stressant pour l'élève? Tout à fait. Bravo. Je te félicite.
Oh, merci! OK. La dernière question, la plus difficile de la soirée. C'est quoi une chose dont tu es fière de ta carrière, Shadat?
Bien, une chose, c'est difficile. Il y en a plein.
Je t'avais dit que c'est difficile.
OK. Bien, la première chose qui me vient en tête vraiment quand on me pose cette question-là, c'est que j'ai vraiment travaillé fort pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Je fais partie du 3 % des gens qui ont été en famille d'accueil et qui ont un degré universitaire. Donc, quand tu as mentionné, quand tu m'as introduit plus tôt que j'ai eu le prix d'excellence à la maîtrise, oui, c'était tout un honneur parce que c'est quelque chose, comme je vous ai partagé au début, que je n'aurais jamais même pu envisager, imaginer avant d'aller à l'université. Mais ce que... À part de ça, ou peut-être ce qui est même encore plus important que ça, je dirais, c'est vraiment les relations que j'ai gardées avec mes anciens étudiants au cours des années. Parce que ça, vraiment, c'est vraiment ce qui me fait le plus chaud au cœur. Tu sais, d'avoir ces courriels, des téléphones, des visites. J'ai des stagiaires qui viennent me visiter chez moi, qu'on est rendu amis. Alors, d'être passée à leur madame, là, à être maintenant leur confidente, leur amie, leur conseillère dans leur choix de carrière ou quoi que ce soit, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de voir qu'on fait une différence, puis de façon permanente et durable. Puis bien entendu, quand je vois des gens à des conférences, je vais dans une école, puis qu'on me dit « Hey Marie-Josée, j'ai essayé ton activité, puis regarde des photos, des vidéos, de qu'est-ce que les élèves ont fait, je suis tellement fière, puis tout ça. » C'est comme « oh mon Dieu, je suis tellement, tellement contente. » Alors oui, ça c'est vraiment le plus beau cadeau, et puis c'est ça qui me garde en vie, qui me donne de l'énergie, puis qui fait qu'après 30 ans, j'ai encore beaucoup de passion pour
ce que je fais. Beaucoup d'énergie.
Oui.
C'est ouais. Super.
On m'a jamais dit ça avant.
Non, vraiment. Bien, merci tellement d'être venu. C'était un plaisir. Marie-Josée Morneau.
Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été une de tes invitées. Merci.
Merci. Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.